Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravi d'ouvrir cette session aujourd'hui. On va aborder un sujet qui touche absolument tout le monde au quotidien. C'est la manière dont on arrive à structurer notre esprit face à un monde qui essaye constamment de le fragmenter.
Bonjour, oui, c'est un très vaste programme. Je suis ravi d'être là pour en parler.
Et le point de départ de notre analyse aujourd'hui, c'est un document vraiment percutant. J'ai sous les yeux un article publié par Action Succès, ça date du 3 mars 2026 et ça s'intitule la chose suivante. L'autodiscipline comme compétence stratégique au 21e siècle.
Tout un programme, ouais.
C'est ça. Et l'objectif ici, c'est pas de faire la leçon. C'est vraiment de comprendre pourquoi aujourd'hui l'intelligence brute ou le talent naturel, ça suffit plus du tout. La mission de notre échange, pour tous ceux qui aiment apprendre de nouvelles choses sans se sentir submergés, c'est d'offrir un vrai raccourci, une méthode concrète pour structurer son esprit.
Absolument. Et pour bien encadrer cette réflexion, il faut absolument poser le contexte général. On vit dans ce qu'on appelle communément l'économie de l'attention. Et c'est vraiment le terrain de jeu actuel. C'est-à-dire que chaque application, chaque notification ou plateforme numérique a été pensée par des ingénieurs brillants dans un seul et unique but. Capter et monétiser la moindre fraction de notre concentration disponible.
C'est presque une guerre, en fait.
Mais c'est exactement ça. Dans un tel environnement, la discipline, elle opère une mutation radicale. Historiquement, on l'apercevait un peu comme une vertu morale, un truc de rigide, voire un peu austère.
Ouais, le fameux coup de règle sur les doigts, quoi.
Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ce paradigme a totalement changé. C'est devenu le bouclier ultime. C'est un véritable avantage concurrentiel pour quiconque souhaite maintenir un cap dans cet océan de sollicitations permanentes.
Bon, décortiquons tout ça. Le document démarre sur une remise en question assez frontale. L'article avance que le talent suffit pas, que la motivation suffit pas, et que même l'intelligence, en fait, ça pèse pas lourd sans une structure solide.
C'est très direct.
Ouais, très direct. Seule la discipline créerait un avantage durable. Alors, on le sait tous, en théorie, hein, bien sûr, mais notre culture est tellement imprégnée de cette idée qu'il faut trouver sa passion ou chercher l'étincelle pour avancer, que de le lire sous cet angle clinique, ça fait l'effet d'une douche froide. Pourquoi est-ce qu'on continue de s'entêter à courir après la motivation alors que c'est si peu fiable ?
Ce qui est fascinant ici, c'est la distinction fondamentale soulevée par l'article entre l'état émotionnel et le comportement. C'est le vrai point de bascule de cette analyse. La motivation, par essence, c'est une émotion. Et comme toute émotion, elle est soumise à des fluctuations imprévisibles. Ça va dépendre de la qualité du sommeil de la nuit précédente, d'un pic de stress, d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle reçue le matin en réveil.
Donc c'est hyper fragile en fait.
Exactement, c'est un carburant très volatile. La discipline, en revanche, elle appartient au registre du comportement. Elle est totalement agnostique face à l'humeur.
Elle s'en fiche de savoir si on a bien dormi ou pas.
C'est ça. Elle permet d'exécuter une action, que l'enthousiasme soit là ou qu'il soit totalement absent.
C'est dingue, parce que ça montre à quel point c'est une vulnérabilité immense de dépendre de la motivation. Attendre de se sentir inspiré pour entamer une tâche complexe, c'est littéralement déléguer la réussite de ses projets à une espèce de météo interne qu'on contrôle pas du tout.
Totalement.
Pour quelqu'un qui veut accomplir des choses à forte valeur ajoutée, c'est une stratégie super précaire. Face à l'architecture moderne de la distraction qu'on évoquait tout à l'heure, si on est armé que de sa motivation, au premier coup de vent numérique...
La vidéo virale, le fil d'actualité...
Voilà. La tension est balayée directe.
L'article met vraiment en garde contre ça. Croire que la motivation est le préalable indispensable à l'action, c'est une erreur cognitive majeure. La discipline, elle repose sur des systèmes reproductibles et c'est ça qui permet de s'affranchir de la dictature de l'humeur. L'enjeu, c'est de maintenir un effort constant pour créer un effet cumulé et c'est ça qui, sur des mois ou des années, produit des résultats. L'effort régulier va toujours battre l'effort intense mais sporadique.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'analyse prend une tournure plus scientifique. On quitte le terrain du développement personnel un peu classique pour plonger dans les neurosciences. On y découvre la mécanique de l'autocontrôle directement à l'intérieur de notre cerveau. Et c'est pas de la magie du tout, c'est de la pure biologie.
Oui, c'est très documenté. Le contrôle de soi est géré par une zone extrêmement précise qui est le cortex préfrontal.
D'accord.
C'est la partie du cerveau située juste derrière le front. Elle est responsable des fonctions exécutives, de la prise de décision, de la planification et surtout de l'inhibition des impulsions.
Donc c'est le frein de notre cerveau, en quelque sorte.
Exactement. Concrètement, chaque fois qu'une personne a l'envie irrépressible de vérifier son téléphone en pleine réunion et qu'elle s'en empêche, c'est ce fameux cortex préfrontal qui s'active pour mettre un veto à l'impulsion de base.
Sauf que ce système a un talon d'Achille. Le document parle de la fatigue décisionnelle. L'idée, c'est que ce cortex préfrontal, il fonctionne un peu comme une réserve d'énergie, mais qui est limitée.
C'est le nœud du problème.
Chaque décision prise dans la journée, même un truc absurde comme choisir ses vêtements ou décider quoi manger, ça puise dans cette réserve neuronale. Donc plus la journée avance, plus la capacité à faire preuve d'autocontrôle s'effondre.
Oui, c'est physiologique.
C'est pour ça qu'il est tellement facile de céder à la malbouffe le soir ou de repousser un dossier à 18h alors qu'à 9h du matin, on se sent tête-à-tête.
Si l'on relie cela à la vision globale, ça amène à une conclusion implacable de la part de l'auteur. Compter uniquement sur sa volonté, c'est une bataille perdue d'avance. Puisque la réserve s'épuise mécaniquement, la discipline ne doit surtout pas reposer sur un effort conscient perpétuel.
Elle doit reposer sur quoi alors?
Sur la structure de l'environnement. C'est l'environnement physique et numérique qui doit faire le gros du travail en amont pour protéger le cortex préfrontal.
Et le coût de cette indiscipline chronique dont parle la source, ça va bien au-delà de juste perdre un peu en productivité. Les conséquences mentionnées sont tragiques.
Oui, on parle de procrastination chronique, d'urgence permanente.
Et surtout, le plus frappant pour moi, c'est la baisse de l'estime de soi. Il y a une réflexion très puissante dans le texte qui dit que chaque promesse non tenue envers soi-même affaiblit son identité personnelle. C'est terrible à lire, mais c'est tellement vrai.
C'est fondamental en psychologie. La confiance en soi, c'est pas magique, ça se bâtit sur des preuves. Et à l'inverse, chaque engagement qu'on respecte, ça agit comme une preuve pour le cerveau. L'individu se prouve à lui-même qu'il est fiable. C'est ça qui forge une identité forte.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour notre quotidien? L'article nous laisse pas sans solution. Il propose 5 piliers fondamentaux et une méthode en 6 étapes. Prenons le temps de voir ça. Le premier pilier, c'est la clarté stratégique.
Sans ça, rien ne tient. La clarté stratégique, c'est la nécessité absolue d'avoir des objectifs mesurables. Le cerveau humain est conçu pour économiser son énergie. Si la destination est floue, du genre « je veux être en meilleure forme », le cerveau refusera de faire l'effort.
Il faut un truc du style, je vais courir 5 km en moins de 30 minutes.
Exactement. Sinon, l'inconfort immédiat de l'effort va toujours gagner.
Le deuxième pilier, c'est l'environnement contrôlé. On en parlait avec la fatigue décisionnelle. Les exemples de la source sont hyper concrets. Téléphone hors de portée, notification désactivée.
Le but, c'est de créer de la friction. Si le téléphone est dans un tiroir, dans une autre pièce, ça demande un effort physique d'aller le chercher. Et ce micro-délai de friction donne le temps au cortex préfrontal de reprendre le contrôle et de dire non.
C'est malin. Le troisième pilier, j'adore cette idée tirée de l'article, ce sont les micro-engagements. 20 minutes de travail profond valent beaucoup mieux que 2 heures irréalistes.
C'est une technique pour déjouer l'amygdale, en fait. La zone de la peur. Face à un énorme objectif, le cerveau perçoit une menace d'effort douloureux et on procrastine. En réduisant à 20 minutes, on fait baisser la menace perçue.
Et une fois lancé, c'est plus facile de continuer?
Tout à fait, l'inertie s'inverse.
Quatrième pilier, les rituels automatisés. L'idée de réduire cette fameuse fatigue décisionnelle en automatisant au maximum.
Si on fait du sport tous les lundis à 18h, au bout d'un moment, on ne se pose plus la question. On élimine le débat interne épuisant.
Et enfin, le cinquième pilier, le suivi et la mesure. L'article insiste sur la nécessité d'un tableau hebdomadaire pour s'améliorer.
Ce qui est mesuré s'améliore. Cocher une case active le circuit de la récompense dans le cerveau, c'est basique mais redoutable.
Bon, avec ces 5 piliers, on a la fondation. Maintenant, la méthode d'application en 6 étapes de l'article. L'étape 1, c'est de choisir une priorité. Une seule.
La dispersion, c'est vraiment l'ennemi, que ce soit la santé et les finances. Il faut en choisir une.
Étape 2, définir l'objectif. L'exemple de la source, c'est écrire 500 mots par jour pendant 30 jours.
C'est binaire, soit c'est fait, soit c'est pas fait. Pas de place pour l'auto-sabotage.
Étape 3, réduire la friction environnementale. Donc si on reprend l'écriture, ça veut dire avoir le logiciel déjà ouvert, couper le Wi-Fi. Étape 4, instaurer une routine fixe.
C'est là qu'on commence à forger les circuits neuronaux par la répétition temporelle stricte.
Et l'étape 5, que je trouve brillante, c'est anticiper les obstacles, les moments à risque.
C'est planifier à froid ses réponses au moment de faiblesse. Si on sait qu'à 15h, on a un coup de barre et qu'on scrolle sur son téléphone, il faut avoir prévu une parade en amont.
Et la dernière étape, la 6, c'est d'évaluer chaque semaine, une boucle d'amélioration. Mais l'article ne s'arrête pas à la mécanique. Il y a un détail frappant sur la sémantique et le changement d'identité. Il dit qu'il faut dire « je suis une personne disciplinée » plutôt que « je veux être discipliné ».
Oui, ce pivot change tout le rapport à soi. Le cerveau cherche naturellement la cohérence avec l'identité qu'on déclare. Se dire « je veux être discipliné », c'est admettre qu'on ne l'est pas.
Ça crée un combat.
Voilà. Alors que déclarer « je suis discipliné », ça aligne le comportement sur l'identité. C'est lié à la dissonance cognitive.
Si on rate sa routine, ça crée un inconfort psychologique tellement désagréable que le cerveau va nous pousser à agir juste pour rester cohérent.
Absolument.
Dans la section FAQ de l'article, il y a des réponses à pas mal de doutes. D'abord, sur l'âge. Est-ce qu'on peut changer quand on a passé sa vie dans le chaos ?
La neuroplasticité permet de développer cette compétence à n'importe quel âge. Le cerveau peut recâbler de nouvelles connexions physiques, donc oui, c'est toujours possible.
Mais ça prend du temps. La source parle du temps nécessaire pour installer cette habitude.
Il faut compter entre 30 et 60 jours en moyenne d'efforts constants avant que ça devienne un automatisme neurologique.
Et puis, il y a ce mythe de la rigidité, cette idée reçue que la discipline tue la créativité. L'article prend ça à contre-pied.
Oui, il affirme le contraire. C'est le manque de structure qui sature la charge cognitive. En automatisant les routines, on libère en fait de l'énergie mentale énorme pour l'innovation. La structure libère la créativité.
L'échafaudage qui permet de construire plus haut. Et ça paye, parce que les bénéfices à long terme mentionnés sont cumulatifs. Progression professionnelle, stabilité émotionnelle.
On sort du mode gestion de crise permanent, donc l'anxiété chute.
Et on gagne une crédibilité énorme. Pour résumer tout ça, je voudrais rappeler la citation clé de l'article d'Action Succès, qui clôture bien le débat. La question n'est pas « suis-je motivé ?», la question est « suis-je structuré ?»
C'est redoutable de pragmatisme.
C'est un rappel chaleureux mais ferme. Pour quiconque cherche à transformer ses ambitions en résultats tangibles et à survivre aux distractions massives de notre époque, la structure, c'est la véritable forme de pouvoir.
Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière piste de réflexion inédite pour aller un peu plus loin sur cette analyse de l'environnement.
Je t'écoute.
Si notre autodiscipline dépend à ce point de l'environnement physique et si peu de notre propre volonté intrinsèque, dans quelle mesure les espaces que nous partageons avec les autres, je pense à nos bureaux, en open space ou même à la disposition des meubles dans nos salons, tournés vers les écrans, dictent-ils secrètement nos succès ou nos échecs bien avant même que nous ayons fait le moindre choix conscient ?
Ah oui, ça donne le vertige de voir ça sous cet angle. Nos espaces physiques décideraient de nos réussites à notre place. C'est une excellente pensée provocatrice pour terminer. On va clôturer cette exploration en profondeur sur cette note vraiment inspirante. On espère que cet échange va nourrir votre curiosité continue et vous donner des clés concrètes.
Merci à tous de nous avoir suivis.
À très bientôt pour une nouvelle analyse.